これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ
ー。Le Gai Savoir。
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Julie-Marie Parmentier et Georges Kless.
Et à la réalisation, François Connac.
Il paraît que notre époque est en mal d'idées neuves. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui le disent ont, comme toujours, le sentiment d'être les premiers à le penser. Alors comment produire du nouveau, donc? Et où trouver les idées neuves d'aujourd'hui? C'est très simple, dans la parole des anciens. Michel de Montaigne est nouveau ce matin, et rien n'est plus vieux que le journal d'aujourd'hui. Vous verrez, vous entendrez dans cette émission combien le chapitre que Montaigne consacre à la question de l'éducation fourmille d'intuitions encore inédites. Et tout ce que doivent Pascal, Rousseau, Kant, Nietzsche et Bergson à ce texte qui, plus que le discours de la méthode, fut le véritable acte de naissance de la philosophie des Lumières.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
C'est avec plaisir que nous rouvrons les essais ce dimanche, pour parler cette fois de l'éducation des enfants, mais aussi de la sagesse antique, du gai savoir comme de la bonne ignorance, et tout ça réuni dans un seul et même chapitre génial, le 26e du livre 1 des essais.
Entreprenant de parler indifféremment de tout ce qui se présente à mon esprit, et n'y employant que mes moyens naturels, s'il m'arrive, comme cela se produit souvent, de rencontrer par hasard dans les bons auteurs ces mêmes sujets que j'ai entrepris de traiter, comme je viens de trouver chez Plutarque son exposé sur la force de l'imagination, alors, à me reconnaître en comparaison de ces gens-là si faibles, si chétifs, si pesants et si endormis, je me fais pitié ou dédain à moi-même.
Je me félicite cependant de ceci. C'est que mes opinions ont cet honneur de rejoindre souvent les leurs, et que je vais, au moins de loin, à leur suite en disant oui.
Je me félicite aussi d'avoir quelque chose que chacun n'a pas, c'est de reconnaître l'extrême différence qu'il y a entre eux et moi.
C'est une très jolie preuve d'humilité de Montaigne, et c'est aussi l'occasion de réaffirmer son goût pour les auteurs antiques. Et latin de préférence, on trouve beaucoup dans les essais de Lucrèce, de Plutarque, d'Horace, d'Épicure à foison.
Dont il truffe son texte. Son texte est truffé, ce sont des truffes, littéralement. Ce sont des truffes blanches, les citations latines qui se trouvent dans les essais de Montaigne. Vous avez parlé d'humilité, hein, de modestie,
oui.
Je ne sais plus quel terme vous avez employé.
Humilité. Mais,
et pourtant, ça pourrait passer pour de l'orgueil. Parce que l'expérience de celui qui lit quelque chose et qui y voit l'écho de ses propres pensées, et qui du coup prend une phrase dans le texte qu'il a lu pour l'intégrer au texte qu'il est en train d'écrire, ça peut être du pillage. Eh bien non, c'est une expérience d'humilité. Montaigne a la sagesse d'en faire une expérience d'humilité, et il est très important, au début d'un chapitre sur l'éducation, de comprendre d'abord la place que Montaigne accorde aux anciens, la place qu'il leur fait, qui est une place pure, c'est-à-dire qui est une place qu'il voudrait dépourvue de préjugés, même si c'est son goût qui choisit les citations. Ces préjugés n'interviennent que dans le choix des citations, mais les citations en elles-mêmes ne sont jamais écrites au style indirect libre ou au style indirect. Ce sont les phrases dans leur jus, dans leur latin. Et c'est très important, ça. Il y a une préservation du texte comme tel. Vous avez des passages comme ça dans les essais esthétiques de Hume, dont on parlera un jour au Gai Savoir. Hume recopie in extenso un passage du Don Quichotte. Dans le discours de métaphysique, Leibniz recopie in extenso un passage du Phédon. C'est très important de savoir faire ça, c'est-à-dire non seulement de citer en disant qu'on cite, naturellement, de ne pas piller, évidemment, mais surtout de mettre une citation dans son jus, de la préserver de toute altération par mon propre jugement, car le choix de cette citation témoigne déjà de mon emprise sur elle. Et puis, c'est important de remarquer à quel point c'est faire acte d'humilité que de sentir en soi la parole d'un autre. Car il ne s'agit pas tant de se dire « j'ai pensé comme Plutarque » que de se dire « ce que Plutarque a dit est tellement génial que même 1500 ans plus tard, que Plutarque, me traverse les mêmes idées, non pas parce que mon génie égale le sien, mais tout simplement parce qu'il avait le génie de formuler quelque chose qui allait plus loin que lui. » Et c'est cette très belle ouverture de Montaigne. Il reste longtemps hein, sur cette la valeur de ces emprunts n'est pas du tout à lire comme une excroissance, une improvisade sur le thème de l'éducation, enfin, à la façon de Montaigne, si vous voulez, où il parle d'autre chose, puis il revient à son sujet, puis il s'en éloigne, puis il y revient, etc. Enfin, une sorte de saut et gambade. Non, on est vraiment en plein dans le sujet, parce que c'est le fond de l'éducation. C'est le cœur de l'éducation. L'éducation, c'est d'apprendre à penser par l'autre avant d'apprendre à penser par soi-même. Alors, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le modèle éducatif montagnien. D'abord, c'est un modèle exemplaire. Quand je dis exemplaire, il faut le dire à double titre, Paola. Exemplaire parce que c'est exemplaire, parce qu'on n'a pas fait mieux. Rousseau et ses 700 pages de l'Émile peuvent se rhabiller. J'ai presque envie de dire la même chose de Rabelais, je sais que vous n'allez pas être d'accord. Il n'y a pas mieux. Même Kant, d'une certaine manière, n'a pas fait mieux. Et surtout, Kant s'est inspiré explicitement.
Kant qui reprend la citation d'Horace qu'on trouve chez Montaigne, « Sapere aude ».
Absolument. Il cite un moment Horace, « Sapere aude », or c'est la citation...
« Aux êtres sages ».
Voilà. « Ose apprendre, ose savoir, ose te servir, et l'audace de te servir de ton propre entendement », comme le traduit Kant avec la légèreté dont il est coutumier. Cette citation d'Horace qu'on trouve chez Kant dans un opuscule qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» est une citation que Kant emprunte d'abord à Montaigne, l'ayant emprunté à Horace. Ça se fait dans ce sens-là. Mais quand je parle d'exemplarité ici... Je ne veux pas seulement dire que c'est mieux que tout ce chapitre, même si à mon avis c'est le cas, mais c'est aussi un chapitre qui marche à l'exemplarité. Il faut prendre exemple sur ce que Montaigne dit de lui-même pour être soi-même fidèle à l'intention, qui est celle de Montaigne, comme à la nôtre d'ailleurs. Il faut prendre exemple sur le fait que Montaigne lui-même prenne exemple sur les anciens. C'est une démarche, c'est une exemplarité, si vous voulez, réflexive. On est véritablement dans l'histoire des idées, c'est-à-dire dans les idées comme histoire. Il ne s'agit pas d'une histoire linéaire des idées, ici. Non, il s'agit d'un engendrement ou d'un enfantement d'une idée par l'autre. D'idées qui se ressemblent en idées qui se ressemblent, on finit par changer de pays.
Oui, mais sinon, vous voulez dire qu'on peut par exemple prendre à Montaigne ses conseils, ses délicieux conseils pour devenir bilingue en latin ? Par exemple ?
Oh, mais là, vous enjambez les étapes. Je vous répondrai plus tard hein, à cette question. Les conseils de Montaigne pour devenir bilingue en latin sont formidables parce que c'est l'occasion surtout de faire pour lui un éloge de son père et de montrer comment on apprend le latin sans effort. Quand on pense à la douleur, qui fut peut-être la vôtre, en tout cas la mienne, quand il s'agissait d'apprendre les déclinaisons, le déplaisir avec lequel on se mettait au latin, alors que c'est si beau quand on en est un peu familier, quand on accède à cette familiarité, et c'est agréable et c'est intéressant, on se dit que ce que Montaigne propose, c'est-à-dire cet apprentissage sans effort par imprégnation, il a fait l'école bilingue du latin, Montaigne, cet apprentissage par imprégnation est peut-être la vertu première de l'éducation au sens de Montaigne. Mais avec votre permission, Paola, je voudrais qu'on attende un peu avant d'en venir à ce que le modèle éducatif de Montaigne peut avoir de plus doux pour rester quand même sur les paradoxes de son commencement. Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était un texte nouveau. C'était un texte de nouveau. Plus exactement que pour faire du neuf, il fallait le chercher chez les anciens. C'est exactement ce que fait Montaigne. Les idées neuves, il les trouve chez Plutarque, encore une fois. Non pas par goût du paradoxe, mais parce que le fait même, sa propre culture, qui est la source de son humilité, sa propre culture le renseigne sur le fait que, et lui permet de comprendre surtout à quel point, au fond, les problèmes ne changent pas. Et que la nouveauté, ce qui fait la nouveauté d'une idée, ça n'est pas le fait que personne ne l'ait prononcé jusqu'ici. Ce qui fait la nouveauté d'une idée, c'est que précisément, elle porte en elle, elle est grosse d'un problème qui ne trouve pas sa solution, qui se reproduit à chaque époque. C'est un problème toujours neuf. La mort est une idée neuve, parce que chaque personne qui naît est confrontée à ce problème qui n'est que le sien, en un sens. De sorte que la richesse inouïe du chapitre de Montaigne et la valeur novatrice du chapitre de Montaigne vient du fait que Montaigne s'inspire des anciens et en un sens n'invente rien. Ou alors s'il invente, c'est au sens latin, c'est-à-dire qu'il découvre, il trouve des choses qui sont déjà là. Et il nous faut traiter Montaigne comme Montaigne traite les anciens. C'est-à-dire avec la même déférence, avec les mêmes égards, avec les mêmes respects. La nouveauté même d'une idée en est la condition.
Et Montaigne prend vraiment le soin de distinguer l'inspiration, qui est son cas, du pillage. C'est dans un texte qui suit de quelques pages le texte qu'on vient de lire. Écoutons-le.
Faire ce que j'ai découvert chez certains, c'est-à-dire se couvrir de l'armure d'autrui au point de ne pas montrer seulement le bout de ses doigts, mener son projet...
Ainsi qu'il est aisé de le faire pour les gens qui sont savants dans une matière qui appartient à tous.
Grâce à des inventions anciennes, pièces rapportées, cousues par-ci par-là. Pour ceux qui veulent cacher ces emprunts et se les approprier, c'est premièrement une injustice et une lâcheté. Parce que, n'ayant en eux rien de valable qui leur permette de se montrer, ils cherchent à se présenter sous une valeur étrangère. Et puis, grande sottise, en se contentant par tricherie de s'attirer l'ignorante approbation du vulgaire, c'est se déconsidérer envers les gens intelligents et savants qui font la grimace devant notre incrustation empruntée. D'eux seuls, la louange a du poids. Pour ma part, il n'y a rien que je veuille moins faire. Je n'emploie les paroles des autres que pour m'exprimer d'autant mieux moi-même.
Je n'emploie les paroles des autres que pour m'exprimer d'autant mieux moi-même. Pascal saura s'en souvenir hein, quand il écrira notamment son mémorial. On en a déjà parlé, on en reparlera. C'est un des textes les plus importants de l'histoire de la pensée et de l'histoire de l'émotion. S'il y avait une histoire à faire de l'émotion. Le texte de Pascal qui s'appelle Le Mémorial est un des textes les plus importants peut-être. Le Mémorial de Pascal, donc pour mémoire, Paola est le texte auquel Pascal tenait le plus. Il a demandé à être enterré avec et c'est un texte dont aucune phrase n'est de lui. Toutes viennent de la Bible. De sorte que le texte auquel il tient le plus est un texte dont il n'est pas l'auteur. Il fait en lui l'expérience d'une altérité constitutive, c'est le gai savoir, hein. L'expérience d'une altérité constitutive, d'une altérité structurelle, très puissante, qui est en fait une visitation. Ça prend chez Pascal la forme d'une visitation, ça prend chez Montaigne la forme d'une inspiration, c'est-à-dire de la parole des autres. Savoir se rendre disponible à la voix venue de l'autre rive, se rendre disponible au discours venu d'ailleurs, se rendre disponible à une parole qui n'est pas la sienne. Non parce que cette parole, ou plus exactement, se servir de l'écho qu'une parole produit en nous, pour nous rendre disponibles à tout ce que nous ne nous sommes pas encore dit, mais que cette parole est sur le point de faire émerger en nous. L'éducation est à ce prix. L'éducation est au prix de cette conscience de l'altération. Alors, c'est un texte qui permet de faire tout simplement la peau à tous ceux qui considèrent platement et bêtement qu'une citation n'est pas l'expression d'un avis personnel. Vous savez, parfois quand vous faites des émissions, on vous pose une question, et enfin des émissions dont vous n'êtes pas l'invitant mais l'invité, on vous pose des questions, puis il arrive parfois qu'on réponde par une citation. Et de temps en temps, on tombe sur un gros malin qui vous dit, ou une grosse maline qui vous dit « Mais oui, une citation, c'est bien, on voit bien que vous avez appris des trucs, que vous voulez étaler votre savoir, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? » Comme si ça avait un sens. Vous vous souvenez, dans L'étranger de Camus, à un moment, le juge d'instruction lui dit « Ce qui m'intéresse, c'est vous. » Et Meursault se dit « Je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire par là, bon, donc j'ai continué à me taire. » Et comme si le fait de citer quelqu'un n'était pas une façon de parler de soi. Comme si l'expression d'une petite opinion empirique d'un sujet banal comme vous et moi avait plus d'intérêt, plus d'importance et plus de valeur et plus de personnalité qu'une citation géniale, qu'un trait de génie d'un auteur mort depuis 2000 ans. C'est absurdissime. C'est ça qui est formidable. C'est cette différence-là que fait Montaigne entre le pillage et l'inspiration. L'inspiration, c'est d'accueillir une phrase qui n'est pas la sienne parce qu'elle résonne en nous. Et il faut entendre résonner au sens d'un écho et au sens d'un raisonnement. L'inspiration est là. Le pillage, c'est quoi ? Le pillage, c'est tout simplement de prendre une citation, de se l'approprier et de la faire passer pour l'expression de sa petite opinion à laquelle on accorde énormément d'importance et bien trop d'importance. Vous avez dans la... on va dire que je parle de Proust dans chaque émission, mais oui, d'ailleurs, pourquoi pas. Dans la recherche du temps perdu... Il y a un moment où le narrateur est bouleversé de découvrir que les petites opinions qu'il tenait jusqu'ici pour les siennes avaient été formulées, décrites, approfondies dans des textes de Bergotte. Alors il est émerveillé. Et même s'il est tentant, si vous voulez, de trouver génial celui dont la parole coïncide avec nos propres pensées, une telle expérience n'est vraiment pas, en particulier dans la recherche et encore moins chez Montaigne, une affaire de narcissisme. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Celui qui est narcissique, c'est celui qui dit « moi je pense que ». Montaigne dit « d'autres ont pensé ça et moi je vais à leur suite. C'est pas du tout la même chose, c'est tout à fait différent. Avant d'être celle qu'on a déjà eue, les idées qu'on retrouve sous la plume d'un autre ont la saveur de ce qu'on reconnaît sans l'avoir encore éprouvé, c'est-à-dire la saveur d'une réminiscence. La saveur d'un savoir qu'on porte en soi, sans savoir qu'on le porte en soi, justement. De ce qu'on savait sans savoir jusqu'à présent qu'on le savait. Et ce genre de coïncidence conduit le narrateur de la recherche à aimer passionnément des écrivains comme autant de tuteurs capables de mettre des mots sur les secrets qui hantent sa propre conscience. Donc il les aime, comme il le dit lui-même, comme des pères retrouvés. Mais c'est parce que cette coïncidence est d'abord une réminiscence où son cœur, mis à nu, découvert par une phrase qui est plus vieille que lui, parvient à extraire d'une mémoire sans souvenir le savoir qu'à son insu il porte en lui. Et quand on lit Montaigne et après on se retrouve face à des gens qui vous disent « Oui, mais les citations, c'est bien, on sent que vous voulez étaler votre savoir, mais qu'est-ce que vous en pensez-vous » Vous voyez à quel point on est tout de suite au ras des pâquerettes dans un débat comme celui-là. Il ne s'agit pas d'opposer une phrase venue d'ailleurs d'une phrase venue de moi. Ce qui vient de moi n'a aucun intérêt. Ce qui vient d'ailleurs n'a aucun intérêt si, d'une certaine manière, je ne me l'approprie pas, je ne le digère pas. Et d'ailleurs, il y a tout un rôle de la digestion dans le chapitre de Montaigne sur l'éducation.
Oui, justement, j'allais vous y amener, mais c'est ce que vous disiez, c'est tout l'attrait de la philosophie, en tout cas pour moi. C'est comme ça que, quand on est jeune, on commence à faire de la philosophie. C'est quand des auteurs vous deviennent intimes.
Intime. Exactement. C'est le mot. Intime. Parce qu'ils sont ce que vous avez de plus profond, puisqu'ils disent ce que vous sentez. Ils disent ce que vous éprouvez et que vous n'arriviez pas à dire. Ou que vous éprouviez sans savoir que vous l'éprouviez. Ils font naître en vous ce dont vous étiez enceinte, si j'ose dire. Intime, au sens qu'Augustin donne à ce mot, on en a déjà parlé, il faudra revenir dessus constamment parce que le travail sur le gai savoir suppose précisément qu'on travaille sur la question de l'intimité. Intime au sens qu'Augustin donne à ce mot, c'est-à-dire l'intime, c'est l'autre. C'est l'altérité. Donc, au lieu de vous demander ce que vous pensez vous, il faudrait vous demander ce qui en vous pense ça. C'est ça, l'intimité dont il est question. Cette forme d'intimité, ce contact intime. Ce qui fait que quand on fait de la philosophie, nos meilleurs amis sont morts depuis des siècles et que c'est pas grave. C'est que précisément, on est là en présence d'une solitude qui n'est plus une solitude subie, non plus une solitude, la solitude déplaisante de celui qui a besoin de l'autre comme de l'air qu'il respire. Non, c'est la solitude choisie de celui qui n'est jamais seul parce qu'il est toujours hanté par tous les autres qui le constituent, parce qu'il assume le fait d'être lui-même une altérité permanente ou une altération permanente, parce qu'il assume l'intimité qui le compose et à l'intérieur de laquelle il n'a besoin de personne. C'est la solitude qui, dit Guitry, combien de gens augmentent votre solitude en venant l'interrompre. Voilà, c'est la solitude qu'on augmente quand un autre vient l'interrompre, parce qu'on n'a vraiment pas besoin des autres, justement. On n'a vraiment pas besoin des autres, pourquoi ? Parce que les autres nous composent tout entier. Faire de la philosophie, c'est être tout entier composé par d'autres. Et il n'y a pas... Alors, évidemment, le moi en prend pour son grade, si vous voulez. Mais quelle importance, quel intérêt ? Quel intérêt ? La seule chose qui compte, c'est l'autre que chacun porte en soi. Il y a deux personnes en moi, disait Borges, et le vrai, c'est l'autre. Je suis assez d'accord avec cette phrase et j'ai jamais compris vraiment ce qu'elle voulait dire. Mais enfin, il me semble qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans le cas de Montaigne, il y a une... l'autre, c'est la figure du précepteur, Paola. Mais avant de parler du précepteur, juste un mot, parce que je vous ai parlé de la digestion tout à l'heure. Je vous ai dit que la digestion était un terme ambigu. Et effectivement, il y a quelque chose d'ambigu. En fait, il y a trois sens de la digestion.
La digestion, ça peut être la compréhension, faire soi, non ? Quand on digère. Et justement, un sens que j'ai remarqué chez Montaigne, c'est que ça peut aussi être l'inverse. C'est digérer, mais presque pour mieux évacuer après.
Oui, mais alors, c'est-à-dire que vous avez dans la... On va partir, comme il n'y a pas d'histoire linéaire des idées, on peut expliquer Montaigne à partir de Nietzsche. Le paragraphe 355 du Gai Savoir parle de la digestion, parle de la connaissance comme dictée par l'instinct de la crainte. Il dit c'est l'instinct de la crainte qui nous porte à connaître. Il ne veut pas dire qu'on ne peut rien connaître. Il dit que ce qui nous fait connaître, ce qui nous donne envie de connaître, c'est la trouille. Et il compare la connaissance à la digestion, dont Nietzsche, par ailleurs, fait grand cas. Que dit-il ? La digestion. La digestion, c'est comme le concept. Le concept prend des réalités particulières, ou plus exactement, il prend des réalités qui lui sont étrangères, et de ces réalités, il fait des cas particuliers qu'il digère. À la manière dont nous digérons, nous avalons des aliments différents pour produire la même substance. Bien. Donc, c'est l'opération de digestion, c'est-à-dire nous transformons du différent en semblable, dit Nietzsche. Et il compare ça à la connaissance. Et il compare le fait de connaître, de cette façon, à un estomac. C'est une façon très simple pour Nietzsche de dire que Descartes, c'est de la merde. Ce qui est le fond de sa pensée, je crois, sur ce point-là. Mais il y a, en même temps, l'idée que la digestion consiste aussi à s'assimiler quelque chose. Ce que vous digérez, vous ne l'évacuez pas seulement. Ce que vous digérez, vous l'incorporez. Vous l'assimilez. Vous en faites quelque chose de nourricier. Et c'est cet autre sens de la digestion qui est évidemment, cette fois-ci, l'enjeu des citations latines de Montaigne, l'enjeu des hommages que Nietzsche rend à ses prédécesseurs en expliquant que leur sang coule dans ses veines encore. C'est une autre modalité de la digestion. Donc il y a vraiment deux façons de digérer. Nous produisons des excréments, c'est-à-dire du même à partir du dissemblable. Donc, on réduit la diversité du monde, la pluralité du monde, à de l'identique malodorant. Et nous produisons, par ailleurs, nous nous nourrissons nous-mêmes, nous grandissons nous-mêmes en nous incorporant la parole d'autrui, c'est-à-dire non pas en la phagocytant, non pas en nous l'appropriant, mais en nous l'incorporant, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'elle devienne nous-mêmes. Et c'est cette seconde modalité de la digestion qui est exemplaire ici pour comprendre le texte de Montaigne, je crois.
Qu'il ne demande pas seulement à son élève de lui répéter les mots de la leçon qu'il lui a faite, mais de lui dire leur sens et leur substance, et qu'il juge du profit qu'il en aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais par celui de sa vie.
Ce que l'élève viendra apprendre, qu'il le lui fasse mettre en 100 formes, et adapter à autant de sujets différents, pour voir s'il a dès lors bien compris et bien fait sien, en réglant l'allure de sa progression d'après les conseils pédagogiques de Platon. Regorger la nourriture comme on l'a avalée est une preuve qu'elle est restée crue et non assimilée. L'estomac n'a pas fait son œuvre s'il n'a pas fait changer la façon d'être et la forme de ce qu'on lui avait donné à digérer.
Je ne résiste pas à vous donner justement un contre-exemple, donc un très bel exemple de mauvaise éducation. C'est dans Gargantua de Rabelais. Un grand docteur sophiste, nommé maître Tubal Holopherne, lui apprit si bien son abécédaire qu'il le récitait par cœur. À l'envers, ce qui lui prit 5 ans et 3 mois. Puis il lui lut la grammaire de Donat, le Faquet, le Théodolet et Alain dans ses paraboles, ce qui lui prit 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Mais remarquez que dans le même temps, il lui apprenait à écrire en gothique et il copiait tous ses livres, car l'art de l'imprimerie n'était pas encore en usage. Il portait habituellement une grosse écritoire pesant plus de 7 000 quintaux, dont l'étui était aussi grand et gros que les gros piliers de Saint-Martin-d'Ainay. L'encrier, qui jaugeait un tonneau du commerce, y était pendu par de grosses chaînes de fer. Puis il lui lit les modes de signifier, avec les commentaires de Heurtebise, de Faquin, de Trodipeu, de Galeot, de Jean Levaux, de Billon, de Brinlinguant, et d'un tas d'autres. Il y passa plus de 18 ans et 11 mois. Il connaissait si bien l'ouvrage que, mis au pied du mur, il le restituait par cœur, à l'envers, et pouvait sur le bout du doigt prouver à sa mère que les modes de signifier n'étaient pas matière du savoir.
Savoir par cœur n'est pas savoir, c'est avoir à sa disposition ce que l'on a donné en garde à sa mémoire. Ce que l'on sait comme il faut, on en dispose sans regarder le modèle, sans tourner les yeux vers son livre. Fâcheuse capacité qu'une capacité purement livresque, je désire qu'elle serve d'ornement, non de base, suivant l'avis de Platon, qui dit que la fermeté, la bonne foi, la sincérité sont la vraie philosophie, que les autres sciences qui ont d'autres visées ne sont que du phare. Ça, c'est du Montaigne. Et on a vraiment l'impression, hein, là-dessus, Paola, que Rabelais et Montaigne se répondent. D'ailleurs, ce qu'ils disent est une évidence. Je vous parlais tout à l'heure de ces pensées qui nous hantent, dont on découvre en les lisant qu'on les pensait déjà. Quelle forme ça prend, ça, à l'échelle d'une société, d'un monde civilisé ? Ben, ça prend tout simplement la forme du sentiment universellement répandu grâce à ces deux génies que savoir par cœur n'est pas savoir. Que c'est pas parce qu'on apprend par cœur qu'on apprend quelque chose, qu'il faut comprendre le truc pour l'apprendre. Que réciter une leçon, annonner une leçon, c'est pas une bonne façon de faire, et que c'est pas comme ça qu'on apprend véritablement les choses.
Et c'est les grosses chaînes de fer que Gargantua porte autour du cou.
Et ben voilà, les grosses chaînes de fer que Gargantua porte autour du cou, qui sont une métaphore du savoir antique, c'est-à-dire, enfin, d'un savoir qui se prend pour un savoir, c'est-à-dire d'un savoir qui n'est qu'une connaissance, qui n'est pas un savoir réflexif, une science sans conscience. Bien, ces grosses chaînes qui sont la métaphore de cela, on les retrouve aujourd'hui dans toute pédagogie. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, bien sûr, Montaigne a des idées neuves dont les pédagogues d'aujourd'hui, à mon avis, devraient s'inspirer. Peut-être on aura l'occasion d'en voir quelques-unes. Mais avant cela, Montaigne formule ce qui aujourd'hui est un lieu commun, à savoir que quand on apprend par cœur, on ne sait pas ce qu'on apprend. Et que l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on apprend. C'est tout le sens de l'éducation. Quand Montaigne déclare que, par exemple, il dit « Ce sont ici mes sentiments et mes opinions. Je les donne pour ce que je crois et non pour ce qui est à croire. » Quand il déclare ça, il a beaucoup plus d'ambition qu'en apparence, ou qu'on ne pense. Il ne s'agit pas seulement de dire « c'est mon avis et je vous emmerde » ou alors « c'est mon opinion et je la partage ». C'est pas juste ça l'idée. Non, si Montaigne porte en lui, comme il dit, la forme entière de l'humaine condition, ce n'est pas qu'il est le centre du monde, mais qu'il partage avec tout un chacun le privilège d'incarner une des dispositions du caractère volatile de l'humanité elle-même, et qu'il donne aux opinions qui ne sont que les siennes la dignité des grandes phrases qui les représentent depuis toujours, depuis Plutarque, si vous voulez, depuis qu'on écrit. Montaigne dit « Je suis trop mal instruit pour instruire autrui », ce qui fait de lui le père de la philosophie ou le père de l'enseignement de la philosophie. Mais il est en mesure de le renseigner, de se renseigner lui-même sur la possibilité que nous avons d'élever nos opinions au rang d'idées, d'élever nos préjugés au rang d'arguments. Il y a une définition de l'éducation derrière ça. L'éducation, c'est quoi? C'est la transformation du savoir en saveur. C'est une phrase de Barthes, d'ailleurs, dans son discours au Collège de France. Il faut faire un maximum de savoir, c'est-à-dire un maximum de saveur. Montaigne dit ce qu'il croit, mais précisément parce que il se moque de ceux qui croient dire la vérité alors qu'ils ne donnent que leur avis. Et en même temps, il constate que chacun est un interprète d'une disposition fondamentale du caractère de l'humanité.
Et pourtant, savoir par cœur, il y a bien par cœur, dans le sens, pas dans le sens bêtement, savoir par cœur, mais l'expression en soi est belle puisque c'est savoir par cœur.
Oui, l'expression est belle, c'est vrai, mais la réalité est stupide. Aux yeux de Montaigne, savoir par cœur n'est pas savoir. Savoir par le cœur, c'est savoir. Rien n'est plus contradictoire, rien n'est plus différent du savoir par cœur que du savoir
par
le cœur. Voilà, tout simplement, on ne va pas couper les cheveux en quatre. Au fond, c'est ça qui veut dire savoir par cœur n'est pas savoir. Mais il faut en venir quand même à l'actualité, comme on dit, de ce texte, Paola. Il faut bien comprendre que Montaigne est un penseur, comme on dit, étonnamment actuel, dans la mesure où il situe son propos sur le terrain de l'inné et de l'acquis. Il dit à la fois que les individus sont perfectibles, à la manière de Rousseau, ils sont perfectibles. Il dit « les petits des ours, des chiens montrent leurs inclinations naturelles », mais les humains, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il le dit exactement
c'est
comme ça.
Ce n'est pas la molécule paternelle, la maudite molécule paternelle.
Exactement. Dans le Neveu de Rameau, il dit « c'est la maudite molécule paternelle. Mon fils, il va faire comme moi, je sens qu'il va devenir un brigand comme moi », dit Rameau, « et pourtant je l'adore ». Alors que le philosophe veut donner une belle éducation à sa fille pour qu'elle elle soit bonne à marier, en vérité. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Montaigne dit à quel point les hommes, à la différence des animaux, se jettent dans des habitudes, dans des opinions, dans des règles, changent ou se déguisent facilement. Il dit ça longtemps avant que Rousseau, dans son second discours, ait décrit la différence entre l'homme et l'animal sur cette base-là. L'animal végétarien se laisse mourir de faim sur un tas de viande, alors que l'homme est capable de changer d'habitude, de sorte que l'homme a une histoire et que l'homme est susceptible de sortir de lui-même, c'est-à-dire d'être éduqué, ex ducere, éduquere. Il est capable d'être sorti de lui-même. Mais en même temps, Montaigne fait valoir la difficulté qu'il y a à vaincre nos penchants naturels. Et ça, c'est le retour de l'inné. C'est très difficile de vaincre nos déterminations natives, nos préjugés, les habitudes auxquelles nous sommes attachés, parce que le goût d'avoir des habitudes fabrique une deuxième peau, presque plus coriace que la première. Et en cela, d'ailleurs, Montaigne est étonnamment prémonitoire quand il, à partir de ce débat entre l'inné et l'acquis, il formule quelque chose que Jean-Marie Bockel peut-être aurait dû méditer avant de proposer qu'on s'intéresse aux enfants de 3 ans pour savoir si ce sont de futurs délinquants. Montaigne dit « On doit peu s'attacher à ces prévisions et pronostics superficiels que nous faisons d'après la façon qu'ont les enfants de se comporter dans leur enfance. »
Inquiétude des spécialistes de la petite enfance, médecins, psychologues, syndicats de la psychiatrie manifestent aujourd'hui après avoir recueilli 120 000 signatures. Une pétition pour contester le projet gouvernemental de prévention de la délinquance dès le plus jeune âge, autrement dit le repérage précoce de l'enfant difficile qui serait déjà étiqueté futur délinquant. Le pédiatre de Seine-Saint-Denis, Pierre Suisser, est à l'origine de cette pétition.
On nous demande de repérer des enfants chez qui il y aurait des troubles comme cynisme, froideur affective, index de moralité bas. On nous demande d'inscrire sur le carnet de santé des enfants à 3 ans. Est-ce qu'ils n'ont pas de remords ? On est là dans un registre moral et normatif et plus du tout médical et psychologique.
Vous dites qu'il ne faut pas confondre troubles du comportement et futurs délinquants. On n'est pas du tout dans le même registre.
Absolument. Tous les spécialistes nous disent qu'on ne peut absolument pas prédire qu'un enfant qui présente telle ou telle difficulté risque d'être un délinquant par la suite. D'autre part, si nous regardons les enfants sous l'angle d'un avenir délinquant, nous savons qu'ils risquent de se conformer à l'image que nous avons d'eux. Et c'est extrêmement dangereux d'avoir cette attitude du point de vue de la prévention et de la médecine.
Ce n'est pas assez de lui fortifier l'âme, il faut aussi lui fortifier les muscles. L'âme est trop accablée si elle n'est pas secondée et elle a trop à faire s'il lui faut remplir seule les deux fonctions. Je sais combien la mienne peine en compagnie d'un corps aussi peu endurci, aussi sensible, qui se laisse aller si fort sur elle pour prendre appui. Et j'aperçois souvent, dans mes lectures, que mes maîtres, dans leurs écrits, font valoir pour grandeur d'âme et force de cœur des exemples qui ont d'ordinaire plus de rapport avec l'endurcissement de la peau et la solidité des os. J'ai vu des hommes, des femmes et des enfants ainsi faits de naissance qu'une bastonnade est pour eux moins qu'une chiquenaude pour moi. Ils ne remuent ni langue ni sourcils sous les coups qu'on leur donne. Quand les athlètes imitent les philosophes en endurance, c'est plutôt vigueur de muscles que de cœur. Or, l'accoutumance à supporter le travail est une accoutumance à supporter la douleur. Le travail oppose une callosité à la douleur. Il faut rompre l'élève à la peine et à la dureté des exercices pour le rendre capable de supporter la peine et la dureté de la dislocation, de la colique, du cautère et de la geôle et même de la torture. Car dans ce pays, aujourd'hui encore, il peut être exposé à ces deux dernières qui concernent les bons, vu le temps de guerre civile où nous vivons, comme les méchants. Nous en faisons l'expérience. Quiconque combat les lois menace les gens les plus honnêtes de coups de fouet et de la corde pour les pendre. Et puis, l'autorité du précepteur, qui doit être souveraine sur l'enfant, est interrompue et gênée par la présence des parents. En outre, le respect que lui portent les gens de l'hôtel familial, la connaissance qu'il a des moyens et des grandeurs de sa maison, ne sont pas, à mon avis, de faibles inconvénients à cet âge-là pour l'éducation.
Check it on. Firm. Check it off. Remember, always strong. Check it off. Strong. Left foot back. Right foot back. Left foot back. Pick up his jacket. Focus. Okay. Always concentrate. Left back. Right foot back. Pick up his jacket. Stay. Pick up your jacket. Be strong. Hang it up. Hang it up. Hang up. And attitude. Strike. Hang up and attitude. Harder. Harder. Good.
Kung Fu est vivant dans toutes nos actions, Cha Audrey. Il vit dans la façon de mettre notre veste, la façon d'enlever notre veste. Et il vit aussi dans la façon de traiter notre prochain. Kung Fu est au cœur de tout.
Et oui, mens sana in corpore sano, comme dirait Juvénal.
Oui, vous citez Juvénal alors que moi je vous propose Jackie Chan, Paola.
C'était fait exprès.
Oui, et bien voilà. Pourquoi Jackie Chan et pourquoi Karate Kid ? Cette belle fable magnifique sur l'éducation d'un enfant. Parce que dans cette version que propose Karate Kid, enfin de cette version de Karate Kid, donc qui n'est pas la version ancienne avec Pat Noyuki Morita, mais celle avec Jackie Chan et Jaden Smith, le jeune Dre, donc il y a 12 ans, veut apprendre le kung-fu. Et donc Jackie Chan lui sert de professeur, Mr. Han. Et seulement, André a la mauvaise habitude, avec sa mère, de toujours jeter la veste par terre, ce qui rend sa mère totalement dingue. Ça l'énerve prodigieusement. Et les premiers cours de kung-fu, alors que Dre arrive très motivé, sont consacrés uniquement à l'art de accrocher sa veste. Et donc pendant 3 jours, il le fait accrocher sa veste. Au bout de 3 jours ou d'une semaine, Dre n'en peut plus, jette la veste par terre, se rebelle contre son maître, lui dit « En fait, vous savez pas faire de kung-fu, ce que vous m'apprenez, c'est rien. Vous voulez m'apprendre le respect, j'ai compris qu'il fallait respecter ma mère. Merci beaucoup, maintenant je sais accrocher ma veste, au revoir. » Et c'est à ce moment-là que Jackie Chan lui demande de refaire le geste. Et il lui montre, en refaisant le geste, qu'en réalité, le geste qu'il faisait pour enlever sa veste, accrocher sa veste, enlever sa veste, poser sa veste au sol, puis l'attraper et l'accrocher à une patère, ce geste-là était déjà du kung-fu. Et il lui montre, donc, de cette manière, comme un savoir qu'il portait en lui sans savoir qu'il le portait en lui, qu'il portait déjà en lui la science du kung-fu et il ne fait que développer quelque chose. Et en un instant, et l'extrait est magique, en un instant, le gamin, qui jusque-là était un gamin comme tout le monde, qui n'avait aucune technicité particulière, développe des capacités inouïes, c'est-à-dire se met à riposter à Jackie Chan. Tout simplement, c'est-à-dire en reproduisant les gestes qui consistaient simplement à accrocher sa veste. Et la morale est que le kung-fu vit dans tout ce que nous faisons. Laissons le kung-fu de côté. Ce qui compte ici, c'est de comprendre que l'acquisition d'un savoir, c'est la retrouvaille avec un savoir. Acquérir un savoir, un vrai bon pédagogue, est un homme qui vous montre, un homme ou une femme, qui vous montre que vous portez déjà en vous le savoir que vous croyez apprendre. Et c'est pour ça que l'apprentissage par cœur n'a aucun sens. Parce qu'il est forcément hétéronome, forcément hétérogène. Il vient forcément, pour le coup, du mauvais ailleurs. C'est-à-dire d'un ailleurs qui ne peut s'imposer à nous que sous la forme d'une coercition, d'une contrainte, non pas d'un ailleurs qui nous constitue et qu'on incorpore parce qu'on découvre qu'on le porte déjà en nous. Et l'extrait pour ça est exemplaire, parce qu'on voit en une minute la métamorphose d'une chenille en papillon. La chrysalide éclate et le gamin s'aperçoit qu'en fait il est bon et qu'il sait faire du kung-fu parce que c'est un savoir, mais c'est un savoir auquel jusqu'ici il n'avait jamais donné sa chance.
Et d'ailleurs, quelle est la figure du précepteur dans les essais que... Puisque Jackie Chan est dans les essais.
Mais Jackie Chan est un modèle éducatif montagnien. Il n'y a aucun doute là-dessus, de ce point de vue. Le choix du précepteur est essentiel. Quand on enseigne la philo, ce qu'on attend de l'autre, de l'élève par exemple, c'est qu'il hoche la tête. Non pas parce qu'on a besoin de le convaincre, parce qu'on veut en faire le militant de la cause de la thèse qu'on défend. C'est pas l'objet. Mais parce que s'il hoche la tête, c'est qu'au fond, ce qu'on a dit résonne en lui. Encore une fois, ce mot doit s'écrire des deux manières en français. Ce qu'on a dit résonne en lui. Et c'est là qu'on touche du doigt quelque chose d'essentiel. C'est là que quelque chose se transmet. La transmission, c'est l'art de faire naître en autrui ce qui s'y trouvait déjà. La transmission, c'est pas le passage d'un fluide ou d'un savoir. Non, la transmission, c'est la transmission d'un désir. Et ce désir est seul apte à faire naître en autrui le savoir qui s'y trouve déjà. Le précepteur, en cela, est essentiel. D'ailleurs, au passage, c'est le précepteur qui doit avoir la tête bien faite plutôt que bien pleine. C'est pas l'élève. Bien sûr, l'élève doit aussi l'avoir bien faite plutôt que bien pleine. Mais dans le texte de Montaigne, c'est le précepteur, et non pas l'élève, qui doit avoir la tête bien faite plutôt que bien pleine. C'est le précepteur qui doit être bien bâti. Le précepteur, c'est Jackie Chan. Ça doit être un athlète, le précepteur. Et Montaigne dit, par exemple, « Il est dommage que les gens de grande intelligence aiment tant la brièveté. Sans doute leur réputation en vaut-elle mieux, mais nous en valons moins. Plus tard qu'aimait mieux que nous le vantions de son jugement que de son savoir. Il aime mieux nous laisser désir de lui que satiété. » Ça, c'est le premier point du précepteur. Laisser désir de soi plutôt que satiété. On n'est pas là pour vous étouffer à la façon dont Ponocrate étouffe Gargantua, si vous voulez. Bon. Deuxième point, très important, et en fait immédiatement lié au premier. On n'étudie pas pour un gain. Ou plus exactement, le gain qu'on gagne, le gain dont on s'enrichit, c'est l'art de s'enrichir soi-même. Il faut bien comprendre une chose, c'est que penser cela, c'est faire peu de cas de la fausse identité, de l'identité sociale qui repose sur le suffrage d'autrui, et s'attacher au moi souterrain, au moi mobile, instable et sans témoin qui fait le fond d'une personnalité. Il y a derrière la théorie montagnienne de l'éducation, il y a des constantes chez Montaigne, hein. Il dit qu'il change d'avis tout le temps, mais il y a des constantes chez Montaigne, notamment le fait qu'il change d'avis tout le temps. Mais autre constante, la constante destruction de la catégorie d'identité. Parce que la catégorie d'identité, contient pour une substance, genre le moi profond, est en réalité un effet de surface, c'est-à-dire recouvre l'altération permanente de mon individualité, et cette catégorie d'identité est à détruire, par Montaigne, au profit des sentiments que permet le sentiment de n'avoir pas d'identité, justement. C'est-à-dire au profit du désir de s'enrichir soi-même et non pas de recueillir les suffrages du savoir qu'on apprend et du savoir qu'on reçoit, du coup, de l'extérieur. Il s'agit de ne pas étudier pour un gain, séparer la connaissance du monde du besoin que nous en avons. Même si, après, il faut s'adapter au monde, s'adapter au réel, et que Montaigne, en cela, ferait la voix à Rousseau, qui, dans Les Mille, explique que nous ne devons apprendre que ce qui nous est immédiatement utile. Mais on est avec Rousseau dans une autre perspective, même si Rousseau a tout pris à Montaigne sur sa théorie de l'éducation, il y a ajouté des choses qui sont de lui spécifiquement. L'enjeu n'est pas de dire ce qu'on croit, si vous voulez. L'enjeu, c'est, un, de donner à ce qu'on croit la saveur d'un savoir, et deux, de considérer que ce qu'on croit est tempéré par le fait que le monde nous intéresse malgré tout, séparément du besoin qu'on en a. C'est une éducation par le décentrement, d'où l'inconfort dans le modèle éducatif montagnien. Et là, c'est une grande contradiction dans le chapitre sur l'éducation. Il y a des tas de passages où il dit « les enfants, il faut les muscler ».
L'inconfort ou la sévérité ?
La dureté. La dureté. Il faut l'endurcir, le gamin. Il ne faut pas en faire une petite chose mollassonne qui ne supporte pas l'eau froide, si vous voulez.
Et il y a un moment, le travail est une accoutumance à supporter la douleur.
Mais ce qui est en jeu dans cette phrase, et ce qui est vraiment important, c'est accoutumance. Parce que l'accoutumance, c'est la formule magique qui permet au corps et à l'esprit d'avancer d'un même pas, si vous voulez. Or, pour Montaigne, il n'y a pas de différence, au fond, entre le corps et l'esprit. Il considère que le corps ne s'égare jamais et que l'esprit parfois délire en formulant des jugements à partir des impressions reçues par le corps. Donc,
et il reprend l'image de Platon, de l'attelage de deux chevaux qu'il faut savoir...
Oui, tout à fait. Il reprend cette image, sauf que Platon fait tourner l'image, l'attelage que vous décrivez, qui existe dans le Phèdre de Platon, fait tourner l'image au profit de l'esprit. Montaigne le fait au profit du corps. Une vraie éducation est une éducation du corps, pour Montaigne. C'est une éducation du corps, ce qui va de pair avec le fait que le vrai grand livre à connaître, c'est le livre de sa vie. Et c'est le livre du monde, que le monde soit son seul livre. C'est l'enjeu, ici. Il dit, par exemple, qu'on lui mette dans l'esprit une honnête curiosité de s'informer de toute chose. Tout ce qu'il y aura de rare autour de lui, il le verra. Un bâtiment, une fontaine, un homme, le lieu d'une bataille ancienne, celui où César a passé, ou bien Charlemagne. C'est une étude vaine, si l'on veut, dit Montaigne, mais si on le veut aussi, c'est une étude d'un fruit inestimable. C'est en cela que Montaigne n'a rien à voir avec Rousseau. Rousseau a tout piqué à Montaigne, mais là où Rousseau s'éloigne de Montaigne, c'est que Rousseau retient de Montaigne le fait qu'il faut retenir, il faut que c'est le monde, le vrai livre de la vie, et la vraie source de l'éducation. Donc il dit « arrêtez d'accabler nos enfants de livres ». Rousseau s'indigne qu'on donne trop de livres aux enfants, bon... Mais dans le même temps, la raison pour laquelle Rousseau s'en indigne, c'est aussi parce que ça ne sert pas à grand-chose de faire des livres, de lire des livres, plus exactement. Ce n'est pas le plus utile dans la vie, si vous voulez. Rousseau aurait contresigné, par exemple, la phrase de Nicolas Sarkozy sur la princesse de Clèves. Alors que Montaigne, pas du tout. C'est là la différence. Il y a chez Montaigne l'idée que rien n'est plus indispensable que l'apprentissage qui vous enseigne à se méfier de l'utile. De même que personne n'est plus exceptionnel que celui qui, contrairement aux autres, renonce précisément à être hors du commun. Donc, il y a chez Montaigne un rapport à l'inutile dans l'éducation qui est essentiel.
Oui, donc vous en avez parlé, Raphaël. La philosophie est vraiment au centre de ce chapitre des essais sur l'éducation. Et l'image qu'on a de la philosophie, les préjugés que la philosophie doit combattre également, c'est-à-dire cette image austère, totalement irritée du Moyen-Âge.
Ah oui, alors comme c'est vous qui distribuez les textes dans l'émission, Paola, on en vient au texte sur la philosophie, donc, qui termine le chapitre. Ouais, ouais, mais c'est on va le lire, hein, enfin on va l'entendre bien sûr, mais juste un point quand même pour vous dire à quel point la philosophie est essentielle. D'abord, l'enseignement de la philosophie, c'est évidemment la clé de tout enseignement. Tout professeur est un professeur de philosophie. C'est la leçon de ce chapitre aussi. C'est pour ça qu'il termine sur la philosophie. Et on va entendre, quand on va entendre le texte, à quel point les préjugés sur la philosophie demeurent aujourd'hui et sont les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient du temps de Montaigne, qu'ils étaient du temps de Platon. Parce que c'est la parole de Calliclès aussi dans le Gorgias qui dit que la philosophie c'est un truc fumeux pour les gamins qui veulent s'amuser un peu, mais que quand on fait des choses vraiment sérieuses, on a quand même mieux à faire. Mais pour vous dire à quel point Montaigne est le précurseur de bien des penseurs, on a vu qu'il avait inspiré Kant. Écoutez ça. « Quand les vignes gèlent dans mon village, mon prêtre en conclut que c'est la colère de Dieu contre la race humaine. À celui qui reçoit la grêle sur la tête, tout l'hémisphère semble être dans la tempête et sous l'orage. » Ça vous rappelle rien, ça?
Oui, Spinoza.
Mais oui, mais sauf que c'est 100 ans plus tôt.
C'est une chose bien singulière que les choses en soient arrivées à ce point, dans notre siècle, que la philosophie, ce soit jusque chez les gens de grande intelligence, un mot vain et chimérique qui se trouve n'être d'aucune utilité ni d'aucune valeur, et dans l'opinion commune et en fait. Je crois que ces ergotismes qui ont occupé ces avenues en sont cause. On a grand tort de la prendre comme inaccessible aux enfants et avec un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Qui me l'a masqué de ce faux visage pâle et hideux? Il n'est rien de plus gai, de plus allègre, et peu s'en faut que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps. Une mine triste et abattue montre qu'elle n'a pas là son gîte.
L'âme qui loge la philosophie doit par sa santé rendre sain le corps lui aussi. Elle doit faire luire jusqu'au dehors sa tranquillité et son bonheur. Elle doit former à son moule le port extérieur, et l'armée par conséquent d'une fierté gracieuse, d'un maintien actif et allègre, et d'une physionomie calme et amène. Le signe distinctif le plus net de la sagesse est une constante bonne humeur. Son état est comme celui des choses sous la lune, toujours serein.
Elle se propose d'apaiser les tempêtes de l'âme et d'apprendre à rire à ceux qui souffrent de la faim et des fièvres, non par quelques épicycles imaginaires, mais par des raisons naturelles et palpables.
Elle a pour but la vertu, qui n'est pas, comme le dit l'école, plantée au sommet d'un mont abrupt, raboteux et inaccessible.
Ceux qui l'ont approchée estiment au contraire qu'elle est logée sur un beau plateau, fertile et fleuri, d'où elle voit bien toute chose sous elle, et même si l'on peut parvenir jusqu'à elle, à condition de connaître la bonne direction, c'est par des routes ombragées, gazonnées et doux fleurantes, agréablement et par une pente facile et unie comme celle des voûtes célestes.
Parce qu'ils n'ont pas fréquenté familièrement cette vertu suprême, belle, triomphante, amoureuse, délicieuse tout ensemble et courageuse, ennemie déclarée et irréconciliable de l'aigreur, du déplaisir, de la crainte et de la contrainte, ayant pour guide la nature, pour compagne la bonne fortune et la volupté. Ils sont allés, faibles qu'ils sont, imaginer cette sotte image triste, querelleuse, maussade, menaçante, faisant une mine renfrognée, et la placer sur un rocher parmi les ronces, fantôme propre à effrayer les gens.
Vous voyez à quel point, Paola, dans ce texte, et j'espère que nos auditeurs l'entendent aussi, à quel point ce texte est un... D'abord, énumère des clichés qui sont encore les nôtres. Et ça donne du sens, peut-être, à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure de la façon dont on pouvait emprunter une phrase. Montaigne emprunte Plutarque, ou plus exactement, emprunte une phrase à Plutarque. Non, il ne l'emprunte pas, il cite Plutarque. Il faut citer Montaigne pour répondre à tous ceux qui disent de la philosophie « Ouh, la philosophie, c'est compliqué, la philosophie, c'est barbant, la philosophie, ça sert à rien, la philosophie, c'est plein de ronces, la philosophie, c'est difficile. » Ce que j'ai tendance à dire d'ailleurs, mais... bref, tous ceux qui... je veux dire, il faut emprunter cette phrase à Montaigne et l'afficher sur le fronton des écoles. Et d'abord, pour dire à quel point l'enseignement de la philosophie en terminale est une absurdité, on ne le dira jamais assez. C'est absurde de cantonner l'enseignement de la philosophie à la terminale. On devrait enseigner la philosophie tout le temps de l'école. tout le temps de l'école, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à la troisième, à la terminale, les classes prépa, peu importe. On devrait tout le temps enseigner la philosophie parce que, justement, c'est une école de joie. Faut-il qu'on l'ait mal reçue, mal enseignée, mal lue, mal traduite, mal pensée, mal conçue, pour que, depuis toujours, et même à l'époque de Montaigne, elle ait cette allure de mine renfrognée, cette sotte image triste, querelleuse, maussade et menaçante, assise en haut des rochers, parmi les ronces, fantôme propre à effrayer les gens. C'est infernal. Enfin bon, faire de la philosophie, c'est donner à ce qu'on vit, du plus agréable au plus odieux, au plus antipathique, la saveur d'une connaissance possible. C'est tout. Et donc d'une joie possible, quel que soit l'objet qu'on ait à connaître. De là, le rôle du précepteur. Quelques points sur le précepteur avant qu'on termine, malheureusement, cette émission. D'abord, je ne veux pas, dit Montaigne, qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Premier point du précepteur. Alors, ce n'est pas de la démagogie. Il ne s'agit pas de sanctifier l'opinion des élèves à la manière dont on voudrait savoir ce qu'ils pensent. L'opinion, ce n'est pas le micro-trottoir des élèves, si vous voulez. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est d'être pour l'élève ce que le bâton d'un enfant est au bateau qu'il relance dès qu'il menace de heurter le rivage du bassin. Vous voyez ? C'est d'être un tuteur, un souffle. Le précepteur doit être un souffle. Deuxième point, il doit savoir se mettre au niveau de son disciple. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, précisément, ne pas simplifier son propos. Montaigne est celui grâce à qui on apprend qu'il ne faut jamais vulgariser. Jamais. Jamais. Surtout ne pas simplifier son propos, mais être en mesure de le dire simplement. Et il suffit de lire Montaigne pour comprendre ce que signifie le fait de parler simplement. Se mettre au niveau de son élève, c'est s'élever soi-même au point d'acquérir l'aptitude à se mettre au niveau de l'élève. Se mettre au niveau de l'élève, c'est à la limite s'élever jusqu'au niveau de son élève. C'est-à-dire jusqu'à la simplicité dont trop de savoir ont peut-être éloigné, a peut-être éloigné le précepteur. L'autre point très important, c'est que l'exactitude compte moins que la compréhension. La récitation compte moins que la conscience. L'intelligence compte moins que la force de donner à son intelligence la puissance de s'appliquer à la vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure de la digestion. Et puis, il y a quand même, malgré tout, on va finir là-dessus, quoi, la préséance de la philosophie. Souvenez-vous de cette phrase, il dit « Il me semble en effet que les premiers raisonnements dont on doit lui abreuver l'intelligence doivent être ceux qui sont destinés à régler sa conduite et son sens moral, qui lui apprendront à se connaître et à savoir bien mourir et vivre comme il faut. Parmi les arts libéraux, commençons par l'art qui nous fait libres. » Où on retrouve chez Montaigne cette aptitude à jouer sur les mots. L'art qui nous fait libre, ça n'est que la philosophie. Pourquoi ? Parce que la philosophie fait la paix. Pourquoi la philosophie fait la paix ? Parce qu'elle permet de comprendre avant de juger. Et elle est en cela peut-être la seule vertu qui vaille, c'est-à-dire la seule vertu qui est à elle-même sa propre récompense. On retrouve là aussi d'ailleurs une intuition qui sera celle de Spinoza plus tard. Enfin, deux points quand même. J'aurais l'impression de mentir si je ne les donnais pas. Le premier, c'est que Montaigne fait un éloge de la modération dans ce texte. Il faut bien comprendre que la modération n'est pas un compromis. Ceux qui tiennent la modération pour un compromis, pour une sorte de synthèse, pour un juste milieu, sont les mêmes qui pensent que quand on cite quelqu'un, on ne donne pas son opinion. C'est le même genre d'erreur, c'est la même forme de bêtise en vérité. L'éloge que Montaigne propose de la modération n'est pas un éloge d'un compromis, mais plutôt, la modération à ses yeux, c'est l'effet naturel d'une vertu qui est à elle-même sa propre récompense. Comment ne pas être modéré quand la vertu est à soi-même sa propre récompense ? Comment ne pas être modéré quand on voit des mécanismes, là où les autres voient des boucs émissaires, par exemple ? Comment ne pas être modéré quand on constate qu'une thèse est réversible à la seconde où elle est radicale ? Comment ne pas être modéré ni tolérant quand aucune idée venant de soi n'a plus la force d'une vérité ? La modération dont parle Montaigne, c'est la modération que Camus déploiera dans L'homme révolté. On parlera de L'homme révolté dans Le gai savoir, c'est promis. C'est une modération au sens camusien du terme, c'est-à-dire c'est la fine pointe, c'est la plus haute exigence éthique. C'est une modération qui n'est pas un compromis, mais qui est l'art d'échapper par le haut au double écueil des certitudes et de l'ignorance, ou en politique des révolutions et du conservatisme. Et enfin, le dernier point, peut-être avant d'entendre le texte sur l'éducation qu'a reçu Montaigne lui-même et l'apprentissage du latin. Le dernier point, c'est que la véritable utilité de la philosophie chez Montaigne, si utilité il y a, vient du fait qu'elle rend, à ses yeux, elle donne goût à la vie, ou elle rend le goût de la vie. On nous apprend à vivre quand la vie est passée, dit-il. On nous apprend à vivre quand la vie est passée. 100 étudiants ont attrapé la vérole avant d'être arrivés à la leçon que leur fait Aristote sur la tempérance. On nous apprend à vivre quand la vie est passée. Ce que fait la philosophie, l'effet de la philosophie, ça n'est pas d'être une pensée de l'après-midi qui se tourne vers la vie en disant « maintenant que j'ai fini de vivre, je vais pouvoir penser ». Non, c'est que l'effet, la philosophie produit exactement l'inverse. La philosophie permet, et les philosophes sont des grands vivants pour ça, la philosophie permet de devenir le contemporain de ses émotions, précisément. Non pas de penser après coup, mais d'être le contemporain de ses émotions. Et ça, c'est le vrai secret de la modération de Montaigne. Elle repose sur l'union du corps et de l'esprit, sur l'art d'être le contemporain de ses émotions. C'est la première forme de modération. Il dit « ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps que l'on forme, c'est un homme ». D'où, d'ailleurs, la suppression de la violence chez Montaigne, le remplacement de la contrainte par l'épreuve, la nécessité de sucrer les aliments qui sont utiles à l'enfant. Il s'inspire de Lucrèce, mais en disant cela, il s'inspire aussi et surtout de son père, car le fin mot d'un tel chapitre, c'est qu'en fait, c'est un chapitre sur la paternité. Il commence par une réflexion sur la paternité et il termine par un récit sur la paternité. Et tout le chapitre de Montaigne sur l'éducation est en réalité un hommage à son père.
Feu mon père, ayant fait parmi les gens savants et de grande intelligence toutes les recherches qu'un homme peut faire d'une forme d'éducation excellente, fut informé de cet habituel inconvénient de l'apprentissage des langues anciennes. Et on lui disait que cette longueur de temps que nous mettions à apprendre ces langues qui ne coûtaient rien aux anciens Grecs et Romains est la seule raison pour laquelle nous ne pouvions pas arriver à leur grandeur d'âme et de connaissance. Je ne crois pas que cela en soit la seule raison. Quoi qu'il en soit, le moyen que mon père trouva pour remédier à cela, ce fut que lorsque j'étais encore en nourrice, avant que ma langue se dénouât, il me donna en charge un Allemand qui depuis est mort médecin fameux en France et qui était complètement ignorant de notre langue, mais très versé dans la langue latine. Celui-ci, qui l'avait fait venir tout exprès et qui était très chèrement payé, m'avait continuellement sur les bras. Mon père eut aussi avec lui deux autres précepteurs inférieurs en savoir pour me suivre et soulager le premier. Ceux-ci ne s'entretenaient pas avec moi dans une autre langue que le latin. Quant au reste de la maison de mon père, c'était une règle inviolable que ni lui ni ma mère, ni valet ni chambrière n'employassent quand ils parlaient en ma compagnie autre chose que des mots latins, autant que chacun en avait appris pour baragouiner avec moi. C'est étonnant comme chacun en tira profit. Mon père et ma mère apprirent alors assez de latin pour le comprendre et en acquirent suffisamment pour s'en servir au besoin, comme firent aussi les autres personnes de la maison les plus attachées à mon service. Bref, nous latinisâmes tant que ce latin reflua jusqu'à nos villages, tout autour, où il y en a encore et où ont pris pied par la pratique plusieurs appellations latines d'artisans et d'outils. Quant à moi, j'avais plus de 6 ans que je ne comprenais pas encore plus de français ou de périgourdin que d'arabe. Et sans méthode, sans livre, sans grammaire ou procédé dogmatique, sans fouet et sans larmes, j'avais appris du latin. Un latin tout aussi pur que mon maître d'école le connaissait.
Et voilà, donc à bon entendeur, c'est une autre façon d'enseigner, de savoir et d'apprendre. Merci Paola, merci à tous. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes, à peine une heure, sur le chapitre magistral que Montaigne consacre à la question de l'éducation, le chapitre 26 du livre 1 des Essais. On reviendra souvent sur les Essais dans le Gai Savoir, on l'a déjà fait une fois pour parler de la mort, on parlera des cannibales, on parlera de façon générale de l'identité, de l'altérité. Bref, les Essais nous accompagnent dans le Gai Savoir et nous accompagneront toute l'année. Car il y est littéralement question de tout. Un grand merci à nos lecteurs, Julie-Marie Parmentier et Georges Clès, à François Connac, notre réalisateur, à Jean-Michel Bernot à la technique, et bien sûr à Alice Ramon, notre attachée de production, sans qui il serait beaucoup moins drôle de produire le Gai Savoir. Alice, justement, qui vous attend, si j'ose dire, sur notre site internet, à la page du Gai Savoir, où vous pouvez télécharger l'émission, l'écouter en ligne, retrouver aussi les références bibliographiques et musicales. Et on se retrouve en ce qui nous concerne dimanche prochain pour y parler d'ivresse, d'ivresse, selon Zarathoustra, c'est du moins des chansons ivres de Zarathoustra que nous partirons pour délirer ensuite autant qu'on peut. La philosophie continue toute la semaine sur France Culture. Et quelle philosophie, puisque les nouveaux chemins de la connaissance vous parleront de Proust, le plus grand philosophe de tous les temps, toute la semaine de 10h à 11h. Une série d'émissions en partenariat avec le hors-série de nos amis de Philosophie Magazine, sur Proust donc. Il est 17h sur France Culture. Dans un instant, Frédéric Taddeï.